Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, rebonjour si vous êtes là depuis le début. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission avec le comédien Jacques Weber. Il est déjà là, il sera sur les planches du Théâtre des Bouffes du Nord dans la pièce Architecture qui a fait sensation au Festival d'Avignon. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu qui fera, j'en suis certain, sensation également. Et puis dans Les Indispensables, un monde magique et fantastique avec le manuscrit de Peter Pan, livre unique et splendide, et la jeune humoriste Laurie Perret avec son spectacle alimentaire En attendant la pension, rien que le titre est drôle. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Votre journal de la culture, c'est maintenant, journal qui débute par une bonne nouvelle pour le musée du Louvre. Oh non, cet habillage. Le Louvre, les gars.
Merci Nicolas.
Le Louvre, la victoire de Samothrace, la Joconde. C'est pas possible.
Alors Philippe, information de nos confrères. Je m'attendais tellement pas.
Non mais personne s'attendait à ça. Je pense aux gens qui se disent « Tiens, France Culture est en grève, je vais écouter Europe. »
Information de nos confrères du Figaro, le musée du Louvre entre au Guinness World Records. C'est le musée le plus visité au monde avec 10,2 millions de visiteurs en 2018. C'est la première fois que ce titre existe dans le Guinness Book et donc le premier titre est français. Nous pouvons être très fiers ce matin. Je rappelle que le musée du Louvre abrite la Joconde ou encore la Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. 8 départements, 403 salles, 35 000 œuvres exposées sur les 620 694 conservé.
Oh, vous avez le chiffre.
Alors sur le podium, eh ben oui, en numéro 2, le Musée National de Chine avec 8,6 millions de visiteurs en 2018 et puis le Metropolitan Museum of Art de New York se classe en 3e position avec 7,3 millions de visiteurs. Concernant le Louvre, je rappelle que les étrangers représentent quand même près de 75% des visiteurs, mais ce sont quand même les Français qui restent la principale nationalité. Jean-Luc Martinez, le président directeur du Louvre, a déclaré « Je me réjouis que le Louvre, 800 ans après sa création, continue de faire rêver petits et grands de tous les horizons. Quel bonheur de partager avec le plus grand nombre le plaisir d'admirer certains des chefs-d'œuvre du patrimoine de l'humanité. »
Il nous rappelle qu'il y a toujours l'expo de Vinci. Si j'ai bien informé, il y a l'homme de Vitruve. On peut le voir encore aujourd'hui et demain. Et après, il repart en Italie.
Eh oui.
Voilà.
Il sort rarement, d'ailleurs.
Ouais. Tout à fait autre chose. Un célèbre groupe de rap qui se reforme pour un concert exceptionnel.
Le groupe de rap marseillais composé de Soprano, Alonso et Vincenzo donnera un concert exceptionnel au festival Mars Attack le 27 juin 2020. Date exclusive et unique en France. C'est la première fois qu'ils remonteront sur scène depuis le décès de leur quatrième membre Sia en 2015. Le dernier concert des Psychiatres de la Rime remonte à 2014.
Les Psychiatres de la Rime, faut dire le titre. 68 artistes qui appellent à agir contre le dérèglement climatique.
Un collectif d'acteurs, chanteurs, réalisateurs tels que Charles Berling, Elise Moon, Jean-Louis Aubert, Zazie Calogero se nomme The Freaks, ce qui veut dire les farfelus, et il publie une tribune dans Le Monde visant à partager les gestes écologiques et adaptés au quotidien. Ils se définissent de la manière suivante. Nous ne sommes pas des scientifiques, nous ne sommes pas des politiques, nous ne sommes pas des gens de pouvoir, nous sommes juste des artistes, des personnalités publiques qui ont la chance de toucher des millions de personnes de sensibilités et d'âges différents. Ce collectif est né suite à plusieurs échanges avec des experts, avec l'aide notamment de la Fondation Nicolas Hulot. 44 gestes sont détaillés, des gestes, je cite, réalisables et aux conséquences positives. Alors ils commencent tous par leur autocritique et puis déclarent « Nous devons tous devenir des freaks ». C'est-à-dire des gens bizarres qui prennent leur vélo ou mangent des produits de saison.
La Hongrie ne participera pas au concours de l'Eurovision 2020.
Cette bonne musique
ouais.
De l'Eurovision, une première depuis 2010. Le concours se déroulera aux Pays-Bas du 12 au 16 mai prochain. 40 pays participent à la compétition et le slogan est « Open up ». La Hongrie a décidé de se retirer sans donner d'explication, aucune raison officielle donnée par le gouvernement hongrois. Mais autre chose circule, selon des sources internes, avec la montée de l'extrême droite et la récurrence des propos homophobes dans le débat public. La compétition serait jugée trop gay. La Hongrie rejoint la Turquie, donc dans le boycott de l'Eurovision.
Trop gay, G-A-Y. Et pour terminer, Hélène, il vous arrive également, il faut le dire, de ne pas faire de démenti, mais de confirmer une info.
Quand je vous ai annoncé il y a quelques semaines le retour éventuel du groupe Les Pussycat Dolls, vous me parliez, Philippe Vandel, de démenti.
Je prenais mes précautions.
En me disant, Hélène, il va y avoir un démenti, c'est sûr. Eh bien aujourd'hui, on le confirme, le groupe porté par Nicole Scherzinger sera bien de retour. 9 ans après sa séparation, il y aura même plusieurs concerts en Angleterre en avril 2020.
Merci beaucoup Hélène, on vous retrouve pour le portrait inattendu de Jacques Weber.
Allez.
Oh non.
Moi j'adore.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et on est très heureux, Philippe Vandel, d'accueillir Jacques Weber.
Bonjour Jacques Weber.
Bonjour.
Incomparable comédien, monstre sacré du théâtre, comme on dit, cinéma également, filmographie trop longue pour être détaillée ici, surtout si on rajoute les pièces dans lesquelles vous avez joué. Je vais juste citer Cyrano, immense rôle, peut-être le rôle de votre vie. Là, votre actu, c'est une pièce qui s'appelle Architecture, c'est au Théâtre des Bouffes du Nord, distribution éclatante, Emmanuel Béart, Anne Brochet, Stanislas Nordet, Denis Podalydès, ce sera du 6 au 22 décembre. J'aimerais que vous racontiez la pièce et votre rôle, puisque vous êtes à la fois le patriarche de la famille et la charpente du spectacle qui s'appelle Architecture.
Oui.
Alors, ah oui.
C'est un vaste programme. Disons deux mots que nous sommes dans la période de l'entre-deux-guerres, au moment de l'Anschluss, la fin de la guerre de 14. Et il y a un monde qui est en train de se complètement le monde des Balkans est en train de complètement de se dégrader. À l'intérieur de ça, une famille réunie autour d'un grand patriarche qui, nous sommes tous témoins, grand architecte de l'époque, a essayé. Ils sont tous très brillants. Ils ont tous fait des études formidables. Le père a voulu les éduquer dans ce sens-là. Ils ont cru tous qu'ils pouvaient changer le monde. Non seulement ils ne le changent pas, mais ils participent à sa dégradation. Et au moment même où on voit le monde se fissurer, cette famille elle-même se fissure. On est pas loin, par exemple, du thème des damnés de Visconti ou des choses comme ça. On est dans ces eaux-là. Mais ce qu'il y a aussi d'absolument magnifique, c'est deux éléments tout à fait nouveaux de la part de Pascal Rambert, qui, à mes yeux, est un des très, très, très grands poètes, pour ne pas dire un génie.
On va en parler après. J'ai justement posé une question sur lui, justement, Jacques Weber.
Il y a quand même deux fulgurances de sa part. C'est une proposition d'une structure extrêmement, j'allais presque dire nucléaire. Enfin, c'est la façon dont la pièce est structurée, tout à fait moderne, tout à fait passionnante. Et de l'autre, c'est un homme qui écrit pour les acteurs. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas les acteurs qu'il veut, il n'écrit pas. Il ne peut écrire qu'en pensant à des acteurs.
Puisque vous en parlez, Pascal Rambert, son nom n'est pas très connu du grand public, pourtant c'est l'auteur français
le plus joué au monde.
Le plus joué au monde. Qui est-il en deux mots?
J'aime beaucoup la phrase sur Rimbaud, l'homme aux semelles de vent, mais c'est quelqu'un comme ça. C'est un type très, très ascétique qui a décidé d'une philosophie de la vie pour faire son œuvre. Et moi, je peux d'autant plus en parler que je l'ai connu gamin. Ouais. Gamin avec, on picolait ensemble, on fumait, enfin, on a tout fait ensemble, on connaissait beaucoup, voilà, des conneries. Et d'un seul coup, on a l'impression qu'il a, il a dit, voilà. Il faut que je fasse une œuvre, et toute sa fulgurance, toute sa formidable personnalité se traduit dans une langue incroyable, baroque, une langue poétique, une langue extrêmement intelligente et surtout extrêmement théâtrale et poétique.
Je reconnais, c'est très très beau et très très puissant parfois. Il a écrit le rôle pour vous, en s'inspirant de vous.
Oui.
C'est flatteur ou c'est très flatteur ?
Ah ben moi c'est plus que flatteur, moi si vous voulez. J'ai été voir une fois un de ses spectacles, j'en avais déjà entendu parler, j'ai été voir Clôture de l'amour, qui a été une des grandes claques dans ma vie. Et à ce propos, je veux dire une chose, c'est que ce qu'il faudrait que les gens sachent, c'est qu'il n'y a pas que les grands noms qui jouent merveilleusement bien. Quand vous, Audrey Bonnet, vous ne l'avez pas cité par exemple tout à l'heure.
J'ai cité les grands noms, justement.
Non, bien sûr, mais justement. Mais Audrey Bonnet, à mes yeux, c'est une des plus grandes actrices françaises. C'est quelque chose d'inimaginable, c'est bouleversant. Bon, je vais voir Clôture de l'amour et j'ai pris une des très très grandes claques de mon existence. À partir de ce moment-là, j'ai été voir Pascal, j'ai dit je veux jouer avec toi et ça. Il me dit ah bon, mais c'est formidable, moi aussi, j'y reviens. Bon, bref. Et on s'est retrouvé là-dessus et il m'a proposé non seulement ce rôle, mais en plus mes premiers pas dans la cour du Palais des Papes que j'avais toujours refusé.
Ah ouais, vous vouliez pas aller à Avignon, vous
trouviez que c'était... Non, j'aimais pas parce que c'était la grenouille qui se prenait pour le bœuf. Au début, c'était un théâtre intime.
C'était vous la grenouille ou c'est Avignon ?
Non, mais c'est Avignon parce que Jean Villard, au début, il a joué dans un lieu de 300 places, 400 places avec des chaises, on se démerdait. Puis ça a fait un tel succès qu'on a remis des places. Puis on entendait, enfin moi je trouvais qu'on entendait, on ne voyait plus rien. Ouais. Après, ça a été sonorisé, donc il y a eu une période d'acclimatisation. acclimatation. Désormais, c'est un lieu qui, de toute façon, oblige à la transcendance et au lyrisme. Il y a un rapport poétique magnifique. Ouais.
Et alors, d'un mot, il s'est passé quelque chose quand vous êtes retrouvé pour la première fois sur le plateau Avignon. Vous n'étiez pas seul. Il y avait quelqu'un qui visitait la cour d'honneur avec ses gardes du corps.
Obama. Ah oui. Alors, ça fait du bien quand on est endeuillé depuis plus tant de temps avec ce gros porc là, ouais, de Trump, de revoir l'élégance de cet homme. Ne serait... Alors, on était comme des midinettes avec Pascal, vous rendez compte? Parce qu'on dit, oh, y a Obama, y a Obama. Mais tous ont été comme des midinettes, ouais. C'est quand même très étonnant.
Il est venu vous voir ou il est juste passé
non,
comme
non,
ça
non, mais ah, non, mince. Tu parles, il y avait 40 bodyguards, je ne sais pas quoi, et puis il a fait hello, hi, et tout ça. Mais c'est Fred Astaire, le mec, quoi. Il a un charisme. Je ne parle même pas politique, là, je parle, ouais, comme une gamine. Mais vraiment, ça fait du bien de voir l'élégance dans le monde politique. C'est quand même, ça se perd partout, en France aussi. Ouais. Je veux dire, il n'y a plus d'élégance. Là, au moins, il y a une élégance, il y a un charme, il y a quelque chose de formidable. Et donc, on était là et on a vu Obama. Et après, moi, je vais prendre un café pour me remettre. Et il allait dans l'hôtel bouffer et on, ouais, a été enfermés dans le bar. Alors, je l'ai vu passer par, ouais, la vitre. Et c'est comme ça, comme un gamin.
Vous, voilà, êtes resté enfermé dans un bar. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Vous êtes obligé de boire des coups.
J'ai pris un café.
Oh, allez, mais quel menteur. Jacques, oui, Weber avec nous sur Europe.
Et dans un instant, Jacques Weber, on va tout savoir de vous grâce à Hélène Manarino, journaliste et enquêtrice hors pair. Elle a mené son enquête et va vous nous dresser votre portrait inattendu dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Cette respiration était celle de Jacques Weber. Vous, oui, connaissez Hélène Manarino, au moins de réputation alors.
Ah oui, de réputation.
Non, non, elle est bonne, j'espère quand même.
Non, très mauvaise, vous voulez partir. Hélène, c'est à vous.
Bonjour Jacques Weber.
Bonjour.
Alors je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, cher Jaco, Kiki, comme on a pu vous surnommer.
Oui.
Eh bien, c'est parti.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins.
À bicyclette.
Jacques Weber, vous avez vos petites habitudes, vos petits rituels, tranquillement, paisiblement, homme serviable. Vous préparez tous les matins le petit déjeuner, un petit déjeuner servi à l'heure, comme vous détestez être en retard. Vous adorez flâner comme un bon solitaire, prendre un petit café au bistrot du coin, discuter avec les gens du coin. On vous soupçonne d'être accompagné d'un pain au chocolat, mais vous assurez que non.
Mais vous savez ça de tout ça, c'est incroyable.
Et si puis... c'est incroyable, c'est que c'est vrai.
Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est dingue, vrai, oui.
Dingue. Et puis il y a votre nouveau copain, le vélo électrique, sauf que vous marchez beaucoup, quand il fait beau seulement, pour éliminer notamment le saucisson au fromage de chèvre, très 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 dur, comme du bois, Jacques Weber.
C'est extraordinaire cette émission.
Mais oui,
jamais vu un truc aussi précis, oui, l'archive.
Vous allez jusqu'à la Grande Mosquée de Paris, prendre votre petit thé. Là aussi, on vous soupçonne de manger des petits gâteaux.
Non.
Bref, il ne faut pas vous embêter, pas manuel du tout. Changer une ampoule, par exemple, vous n'avez jamais essayé. Vous aimiez, vous, beaucoup emmener vos enfants au parc pour acheter des crêpes à tout le monde. Mais quand c'était un parc avec des attractions, par exemple, vous aviez l'habitude de confier votre fille à une famille présente pour qu'elle puisse faire le manège. Parce que vous,
c'est,
détestez ça.
Et surtout parce que je mourrais de trucs que ça se décroche.
Mais bien sûr. Et vous envoyez votre fille. Certains diront que vous inventez quelques phobies, parfois comme la phobie d'être enfermé alors que vous prenez sans aucun problème l'ascenseur. Oui. Bref, vous avez un côté papa poule, vous avez excellé dans l'imitation de l'ogre, vous avez lu près de 300 fois le livre Chien bleu à votre fille. Mm-hmm. Alors évidemment, pour vos enfants, vous êtes prête à tout, comme ces vacances à Majorque où vous aviez en charge votre fils et ses amis. Ils ont décidé d'aller se promener, vous avez dû aller les chercher presque en haut d'une falaise avec un chemin impraticable. Et c'est eux qui ont dû vous aider, Jacques Weber. Ça reste un très bon fou rire aujourd'hui.
Je suis nu devant vous, c'est terrible. C'est tout à fait vrai, oui. J'ai eu peur, j'ai eu la peur de ma vie.
Ah oui?
Ah oui, une falaise terrible. Et on pouvait ni reculer ni avancer. Je sais pas, je m'étais pris pour un alpiniste de haut vol. Et puis, non, pas du tout. Mais enfin, ils m'ont sauvé. Mais ouais,
vol, le mot est bien choisi. Hélène.
Votre petit plaisir, une journée par an. Vous vous mettez dans votre canapé, vous enchaînez les trois par un en mangeant des pâtes italiennes entre deux films, Jacques Weber, comme un ado.
Oui, mais c'est revanche, génial, je vous conseille de le
bah
faire,
oui,
c'est
bah ça, on va faire ça. Alors, en revanche, vous pouvez parfois embêter les autres. Lorsque vous vous rendez à votre salle de sport, dans vos oreilles, il y a ça.
Ah, mais c'est pas vrai. Vous savez tout ça.
La musique de Pulp Fiction. Alors, elle vous galvanise, mais elle vous fait surtout chanter. Et oui. Et surtout, tout le monde vous entend, sauf que vous ne vous en rendez pas compte. Les gens en parlent entre eux. Et donc, j'ai un message pour vous ce matin. Chantez moins fort dans la salle.
Mais c'est génial quand vous avez, vous savez tout ça.
Oui.
Ah, bravo.
Vous allez en tenir compte ? Vous allez chanter moins fort ?
Je sais pas, j'y arrive pas, parce que moi si tu veux marcher comme ça, bum, ça me fait chier. Alors tout d'un coup, je suis là, balababa, puis je me prends pour... j'imagine la fille, là, comment elle s'appelait, qui était géniale, qui dansait.
Uma Thurman.
Alors là, je l'imagine devant moi, donc là, j'en peux plus, quoi, ça me fait marcher, tu vois.
Alors, bon, ce n'est pas toujours ça que vous écoutez. Il y a l'opéra quand vous travaillez, puis vous venez de découvrir un artiste. Alors, il a vendu quelques albums, il a fait quelques chansons, mais vous êtes en tout cas à la pointe de la musique, puisque vous l'avez découvert presque avant tout le monde.
Il voulait trouver mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu.
Bien oui, vous venez de découvrir Francis Cabrel. Ça y est, vous vous y mettez, mieux vaut tard que
c'est dingue. Vous avez déjà entendu parler de Jacques Brel?
Mais tu sais que l'autre jour, je dis, oh, il est bien ce mec-là, qui sait? Bon, on me dit, c'est Freddie Mercury. Je dis, ah, je connaissais pas, je te jure. Mais moi, j'ai des absences totales. Un jour, on me dit, tu te rends compte, il y a Bruno qui est là. Je dis, c'est qui Bruno? Je dis, le mec, la famille des truands, me dit non, YouTube.
Ah,
c'est
quoi YouTube? La bande à Bono.
Non, mais je te jure, je ne peux pas.
Alors, organisé, Jacques Weber, il faut quand même préciser que vous êtes considéré comme l'un des plus grands bordéliques de l'histoire. Vous perdez tout le temps, votre portefeuille, vos clés et surtout votre téléphone que vous avez encore perdu il y a quelques jours en rentrant de Strasbourg.
Oui, c'est un tout neuf.
Donc là, vous avez un tout neuf. Le problème, c'est que vos proches ne vous font plus de cadeaux. Alors, comme écharpe, écouteurs, c'est fini. Non, ils achètent des choses plus encombrantes, comme des coussins. Comme ça, on est sûr que vous ne perdez pas l'objet. Voilà,
c'est très bien.
Non, mais attends, mais c'est extraordinaire, mais je ne peux pas faire de crime. Je serais tout de suite arrêté avec toi.
Non, parce que vous allez perdre le couteau.
Mais ça reste entre nous. Alors, Jacques Weber, l'homme, il y a aussi Jacques Weber, évidemment, l'artiste. Alors, Jacques Weber, je vous en veux ce matin.
Ah bon?
Parce que, à cause de vous, je dévoile toutes vos habitudes, mais je vais surtout prononcer deux mots que je ne pensais pas prononcer à l'antenne un jour. C'est caca-prout. Eh bien oui, cela vous fait rire et cela vous détend.
Attends, il est mort de rire, attends Hélène.
Pardon, excusez-moi. Non mais moi ça fait rire. Ah bah moi j'adore.
Redites-le Hélène.
Donc,
non, voilà, demande à Jacques Weber, moi je l'ai dit qu'une fois. Mais ça continue, ce n'est pas fini. Votre superstition.
Pardon.
Votre superstition avant de monter sur scène. Alors je continue, alors on y va, on est part de caca-prout, c'est d'uriner dans le lavabo de votre loge. Voilà, ça vous le faites à chaque fois.
Ouais.
Bon voilà, c'est dit, donc Jacques Weber. Vous êtes donc rempli d'habitudes, de rituels, mais aussi... C'est le caca-prout toujours. Mais aussi rempli d'imprévus et de surprises.
Oui.
Finalement, vous avez toujours continué à nous surprendre, ce qui fait de vous un comédien, metteur en scène auquel nous sommes habitués. Et c'est ça, un bon rituel, Jacques Weber.
Merci beaucoup, formidable. Non, mais ça me fait plaisir, parce qu'au moins, c'est très exact. C'est pas l'audateur, ni rien. C'est très précis.
Ah non, c'est pas l'audateur, non.
C'est vraiment, voilà. Hein, c'est des petits faits qui disent des choses. Et moi, ça me touche, parce que tout ça est archivré, pas du tout excessif. Pas du tout excessif.
Merci.
Donc voilà, donc je suis touché. Oui, c'est vrai.
Vous imaginez ce que ça aurait été si ça avait été excessif?
Ah bah
merci beaucoup. Merci Hélène. Jacques, vous restez avec nous.
Ah oui. Jacques Weber est notre invité. Dans un instant, on découvrira nos indispensables du jour avec Nicolas Caro et Louise Bernard sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Dans un instant, nos indispensables du jour avec Louise Bernard et Nicolas Caro. On va les découvrir avec notre invité Philippe, Jacques Weber, qui sera sur la scène des Bouffes du Nord du 6 au 8 décembre pour la pièce Architecture.
6 ou 8, les invitations pour
du 6 au 22 décembre.
Du 6 au 22 décembre. Alors avant, ça a été joué, cette pièce a été créée au Festival d'Avignon. Vous nous avez dit que vous avez toujours refusé toute votre vie d'aller à Avignon. Finalement, vous êtes allé et tant mieux. Et une des raisons qui fait que vous êtes devenu comédien Jacques Weber a un rapport avec le Festival d'Avignon et son icône, Gérard Philippe. Racontez. C'est quoi votre lien avec Gérard Philippe?
En deux mots, c'était l'ange qui survolait notre métier, le monde. À l'époque, c'était une énorme vedette. Et puis, j'étais à côté de ma maman. Et ma maman écoutait la radio. Il y avait ce qu'on appelait un flash spécial d'information. J'avais, je sais pas, 8 ans. J'étais en 52, 54, je sais plus quel mois. Et d'un seul coup, on entend avec les voix de l'époque. Mesdames, messieurs, nous interrompons notre émission. Nanana. Voilà. Et on entend Jean Villard qui dit... Mesdames, Messieurs, Gérard Philippe n'est plus. Ce lien De vous à lui, de lui à vous, seule la mort pouvait le rompre, elle l'a fait. Il avait les dons de la grâce. Et là, d'un seul coup, d'abord ça me bouleverse complètement, parce que j'adorais Gérard Philippe, Fanfan la Tulipe et tout ça. Et puis je vois ma maman, pour la première fois de ma vie, s'écrouler en larmes. Et ça, c'est un souvenir qui est resté. Et après, le lendemain, dans toutes les écoles de France, en tout cas dans la mienne, je l'ai vu, tous les mômes disaient que leur maman avait pleuré à l'annonce de la mort de Gérard Philippe. Et je pense que ce souvenir est très constitutif de ma vocation, ça j'en suis sûr. C'est quelque chose qui m'a marqué à vie, et c'est vrai qu'il y a des choses qui me bouleversent quand je vois les grands saluts. Et d'ailleurs, je demande à mes partenaires de lever les bras comme ça, et ça les énerve parfois. Ouais. Mais comme Gérard Philippe qui emmenait la troupe de Villars saluer dans la cour du Palais des Papes, c'était absolument splendide, quoi.
C'était magnifique. Ça va pas être facile d'enchaîner parce que maintenant on va parler d'une jeune comique. Ah. Vous allez voir parfois des spectacles comiques ou pas ?
Très honnêtement, très rarement parce que ça me gaffe souvent, à part un ou deux génies.
Non, parce qu'au bout, il a raison de le dire.
Au bout de 10 minutes, je m'emmerde très profondément. Ouais. Voilà, bon, il faut pas confondre vulgarité et comique. Et puis, par contre, il y a des gens géniaux comme Blanche Gardin, par exemple. Je trouve ça absolument exceptionnel, mais quasiment, elle me fait penser à Zouk qui était un génie. Ouais. Puis il y a des anciens noms comme Muriel Robin, comme tout ça, qui ont énormément de talent. Mais il y en a beaucoup qui me gaffent profond. Voilà.
Alors celle-ci, j'espère qu'elle ne va pas vous gaver profond. Louise Bernard, c'est pas de vous dont
Bonjour.
Je parle.
Bonjour, ça va être bien parti.
Non, mais justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est la confrontation. On va parler d'humour avec vous. Nous recommandez chaudement le spectacle de l'humoriste Laurie Perret. Elle est nommée pour les Olympia Awards dans la catégorie Révélation Humour de l'année.
Oui, c'est justifié. Alors je vous raconte, Laurie Perret, elle arrive sur scène très propre sur elle. C'est une jolie blonde de 35 ans, petite jupe en jean qui marque bien sa taille, un t-shirt ajusté, des chaussures à talons, maquillage, coiffure, impeccable. Et puis là, elle se met à son piano pour enfants et elle vous chante avec sa voix douce un morceau sur son accouchement, par exemple.
Et ça fait 1, 2, 3, c'est le nombre de coups de ciseaux. C'est ce qu'on appelle l'épisio. Et 1, 2, 3, c'est le nombre de centimètres. J'ai tout en bas, la fenêtre grande ouverte.
Oh non! N'oubliez pas de vulgarité, vous êtes servi.
C'est Jacques Weber. Une chanson sur le camion de Fourniret, tout ça, et les petits pains au chocolat, si je crois, c'est ça.
Ah, je sais pas.
Ah, c'était effrayant, effrayant et très très drôle.
Peut-être que c'est elle, ça pourrait être elle.
Louise.
Donc le ton est donné, hein, vous l'avez entendu. Pendant plus d'une heure, elle raconte un quotidien de mère célibataire, enfin le stade au-dessus, comme elle dit, au-delà du célibat, c'est être en chien. Une mère débordée, un peu, beaucoup alcoolique, qui voudrait bien ressembler aux mères parfaites. Vous savez, c'est celles qui ont le temps de faire les compotes elles-mêmes pour leurs petits chérubins. Mais elle, elle est plutôt du genre à parler comme ça de sa fille.
Mais vous avez vu comment on devient gogol quand on a un enfant? Moi, toute la journée, je crois que je parle à un animal de compagnie. Je suis là, oh, t'es trop mignon, Didi Chan. Du coup, la gamine, elle est complètement débile.
C'est la sienne en plus.
Alors, ce qui est troublant au début, mais jouissif ensuite, c'est qu'on s'y perd parfois. Est-ce que c'est Laurie Perret qui nous parle? Est-ce que c'est un personnage? Bon, vu toutes les horreurs qui sortent de sa bouche, on se rassure en se disant que c'est un personnage. Et c'est ce qu'elle m'a confirmé.
Ben moi, en fait, je viens de l'impro, donc je suis quand même habituée à jouer des personnages. Et on a ce qu'on appelle ces clowns. C'est des personnages qu'on a des facilités à endosser. Et moi, c'était déjà un personnage que j'endossais facilement, la cru-cruche qui raconte vraiment ce qui lui passe par la tête sous prétexte qu'elle est cruche et qu'elle peut se le permettre. Et quand j'ai commencé à jouer, au début, j'ai pas réfléchi que j'allais faire un personnage. J'ai commencé à écrire une chanson et quand je suis venue l'interpréter, j'ai eu tellement peur, mais tellement peur que je me suis planquée derrière ce perso.
Et donc le personnage est resté. Alors les extraits que je vous ai diffusés, ça donne un petit aperçu, mais c'est vraiment le spectacle en entier qu'il faut voir parce que plus le temps passe, plus vous riez, il y a un travail de comique, de répétition et puis vous vous attachez au personnage.
Et c'est son premier spectacle.
Mais oui, mais d'ailleurs je ne vous ai même pas donné le titre, ça s'appelle « Spectacle alimentaire en attendant la pension ». Voilà, ça annonce bien la couleur.
Elle est plus que son mec déjà.
Bah, elle est célibataire.
Ouais.
Et en fait, Laurie, elle est humoriste depuis 2 ans et demi seulement, elle tentait de percer comme chanteuse pendant des années, elle était comédienne aussi. Et par un concours de circonstances, elle s'est retrouvée à faire des chansons humoristiques. Gros succès, donc elle continue en travaillant beaucoup et avec la meilleure source d'inspiration possible, sa fille.
Ma fille a des réparties incroyables. Alors on n'est pas sur le même personnage que moi. Elle, sa vie, c'est un Disney. Et elle est une princesse. Je suis partie la chercher à la maternelle la semaine dernière. Elle est en grande section. Pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas d'enfants scolarisés, il y a dans les classes des ATSEM. Ce sont des personnes qui aident la maîtresse, les pipis, les bobos. Et celle de ma fille, elle s'appelle Valérie, c'est un cœur d'amour. Et je vais chercher ma fille à 4 heures et je lui dis, bah, qui c'est qui t'a coiffée comme ça, chérie?
Bah, c'est Valérie, la servante.
C'est chaud de ne pas rire.
Voilà, et donc pour voir Laurie Perret, c'est simple, elle est en tournée dans toute la France. Lille le 12 décembre, à La Cigale à Paris les 3 et 4 janvier, à Marseille le 10 janvier, Toulouse le 29, et il y a des dates jusqu'en mars 2021.
Et vous pouvez également voter pour elle aux Olympia Awards sur le site de Canal+. Ça va Jacques Weber, c'était...
Non, très bien. Non, moi j'ai pas d'a priori, jamais, mais c'est vrai qu'il y en a quand même une bande qui nous fatigue, puis qui ferait bien de travailler un petit peu. Le sens de l'impro, c'est pas donné à tout le monde quand même, il faut travailler quand on rentre en scène. C'est comme certains animateurs qui rentrent de télévision, qui rentrent en scène en croyant qu'ils savent et qui disent qu'ils sont comédiens. Ça bah commence
là,
à bien faire.
Là, ça fait 2 ans et demi qu'elle fait ça et elle dit que c'est un sport de haut niveau. En fait, il faut. Travail.
C'est sûr. Voilà.
Vous avez raison, j'approuve. Je dis rien, j'approuve ce que vous venez de dire. Jacques Weber avec nous.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Nos indispensables du jour continuent. Dans un instant, Philippe, on va partir au pays imaginaire avec Nicolas Caro. Et on va y embarquer avec nous Jacques Weber, qui est notre invité et qui sera sur la scène des Bouffes du Nord du 6 au 22 décembre pour la pièce Architecture.
Vous savez quoi ? Le pays imaginaire, on va y aller direct. Je vais monter sur le renne du Père Noël et je vais y aller. Noël approche. Vous avez un livre, Nicolas Caro, qui se prête bien à la période.
L'un des plus grands classiques de la littérature anglaise et l'un des personnages les plus connus de l'imaginaire collectif, Peter Pan.
Ça, c'est la musique du dessin animé.
Oui, il faut dire que Disney s'est complètement emparé de l'histoire de Peter Pan. Mais au départ, c'est un roman publié en 1904 par l'écrivain James Barry. Le roman s'appelait initialement d'ailleurs Peter and Wendy.
Et alors pourquoi le personnage s'appelle Peter Pan ou Peter Pan ?
Parce que Barry racontait cette histoire aux enfants d'une grande amie à lui et l'un des enfants s'appelait Peter et Pan, bah c'est une référence au dieu de la nature. Je vous rappelle l'histoire rapide, nous sommes à Londres où vivent Wendy et ses frères John et Michael Darling. Un soir, Peter Pan les rejoint, c'est un enfant qui a arrêté de grandir, qui refuse de grandir. Il est là parce qu'il a oublié son ombre chez eux, il est venu la chercher et donc il en profite pour les emmener au pays imaginaire Neverland en anglais, là-bas Peter et les enfants rencontrent la fée Clochette et vont devoir se battre contre les pirates, notamment le célèbre
Capitaine Crochet.
Voilà, et les enfants perdus, c'était pas dur, etc. Hein. Il leur arrive tout un tas d'aventures, mais Peter Pan, bon, au départ, c'est un livre pour enfants, certes, mais qui peut être lu par des adultes. C'est un roman très profond, une réflexion sur l'enfance, sur les années qui passent. D'ailleurs, depuis, il y a un syndrome qui porte le nom de Peter Pan, c'est la peur de grandir, de devenir adulte, de vieillir.
Mais alors, Peter Pan, tout le monde connaît. Pourquoi, Nicolas, vous avez choisi de nous en parler aujourd'hui?
Parce que sort aujourd'hui justement le manuscrit du livre aux éditions des Saint-Père. Je vous avais déjà parlé de leur travail sur Marcel Pagnol, c'est la même chose. C'est le manuscrit facsimilé, donc copié à l'identique. Vous avez vraiment l'impression de lire les lignes tracées par Barry et en plus vous avez des illustrations incroyablement belles. Ce sont celles d'une édition de 1930 et bien sûr, donc c'est un manuscrit. Donc on peut jouer au jeu des différences entre la version originelle et le texte que tout le monde connaît. À ce jeu-là, la meilleure, c'est Jessica Nelson des éditions des Saint-Père.
Alors la première qu'on a pu remarquer, c'est que le pays imaginaire porte un nom, alors c'est Neverland hein, dans la version connue et publiée. Ici c'est Neverland, comme s'il avait voulu insister sur cette distance qu'il peut y avoir entre le monde imaginaire et le monde des adultes. Il y a aussi des passages entiers qui n'ont pas été publiés par la suite sur la mère, sur Madame Darling. Et donc, vous pouvez traquer les différences et les passages qui ont été raturés et conservés simplement dans ce manuscrit.
Mais c'est tout en anglais.
Ah bah évidemment, bien sûr.
Il faut être bon en anglais, mais c'est un très très beau coffret. On le voit, vous l'avez devant vous, c'est cher.
Oui, c'est le genre de cadeau qu'il faut demander à plusieurs amis en même temps pour qu'ils se cotisent. 160 euros, mais alors c'est le cadeau ultime. Et puis vous gardez ça pour l'éternité.
Pour la vie. Merci Nicolas. Peter Pan, le manuscrit aux éditions des Saint-Père. Vous connaissez cette maison d'édition, Jacques Weber ?
Très bien, j'ai fait une édition, j'ai fait la préface du Madame Bovary qu'ils avaient édité, puis ils ont fait un Godard, alors ça c'était magnifique.
Qui est génial.
Le choc que j'ai toujours entre ce type d'imprimerie, et donc un peu comme ça. Et puis la modernité de Godard, c'était merveilleux, c'était le à bout de souffle. Non, ils font un travail formidablement soigné.
Tout le scénario d'à bout de souffle. Vous restez avec nous, Jacques Weber ?
Oui, oui.
On a encore plein de questions à vous poser, notamment sur la lecture. Comment il s'appelait le livre que vous avez publié cet été pour inciter les gens et les parents à faire lire leurs enfants.
Bon, ça n'avait rien de... Ce n'était pas une volonté pédagogique, mais ça semblait l'entrée des mots. Oui. C'était à partir de... On m'avait demandé de parler des livres qui m'avaient marqué, ce qui est très difficile, parce que chaque livre marque profondément. Ouais. Voilà. Ouais. Dans le bon ou le mauvais sens, d'ailleurs.
Oui, vraiment. Mais quand on le feuilletait, on a envie de tout lire, du coup.
Ah bah oui.
Je me sentais presque coupable d'avoir pas lu certains des livres que vous recommandiez.
Ah bah ça me fait très plaisir. Non, non, c'est vrai, c'était... J'ai bien aimé faire ça, beaucoup.
Vous restez avec nous.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
C'est la dernière partie de Culture Média avec nous, Louise Bernard, toujours autour de cette table, et Jacques Weber, notre invité, qui sera sur la scène des Bouffes du Nord du 6 au 22 décembre pour la pièce Architecture, Philippe.
Je vais parler de théâtre avec une expérience, Jacques Weber, que vous avez faite cet été, vous amuser à jouer ou à aller lire des textes, notamment de Victor Hugo, mais notamment au bistrot. Qu'est-ce que le théâtre vient faire au bistrot ?
Mais c'est extrêmement important parce que ça enlève de leur piédestal les très grands auteurs qu'on nous présente de façon très oui. de haut en bas.
Ça j'imagine, mais est-ce que ça ne les dénature pas, vous diront les puristes ?
C'est tout le contraire. Quand vous entendez la parole d'Hugo, qui est un de ceux... Pourquoi j'ai fait ce spectacle ? C'est que j'ai remarqué que tous les personnages politiques pendant les élections s'emparaient de Hugo, quel qu'il soit, peu importe.
Droite et gauche.
Et donc je me suis dit, tiens, il y a un truc, ils ont pigé quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a un lyrisme... très très directement empathique avec le grand public chez Hugo qui est tout de suite préhensible et en plus c'est un homme multiple, c'est le grand-père, c'est l'amant, c'est le séducteur, c'est le baiseur monstrueux, c'est l'homme politique totalement engagé et puis c'est une adjectivation qui nous parle toujours, il a un sens de la formule absolument inimaginable. Bref, je me suis dit mais moi j'ai été victime de l'éducation nationale donc je sais de quoi je parle et j'avais envie et un jour j'ai vu un bistrot qui me plaisait, je dis mais nom de Dieu, tiens moi j'aimerais bien jouer là ici, le gars me dit, oui, c'est ça, tu parles mon œil. Et je dis, allez, chiche, on y va. Et je me suis retrouvé avec mes feuilles, mes trucs, mais sur un mètre carré, je jouais. C'était bourré à craquer avec le vin rouge, le saucisson et tout. Et je suis parti, et à partir de là, est née une vraie très belle histoire avec ce Hugo au bistrot que j'ai trimballé non seulement dans des bistrots chic, des bistrots très populaires, des bistrots de rugbyman, des salles de théâtre, des petites, des grandes. Maintenant, ça va partout.
Ça partout,
partout.
Normal.
Et non, mais ça ne peut pas se jouer dans une... Quand on entend le discours sur la misère, l'abolition de la misère, ouais. Ne serait-ce que le terme abolition de la misère, c'est une splendeur et qui parle très directement aux gens.
Mais vous avez vraiment joué dans des boucheries ?
Alors j'ai joué chez notre ami Desnoyers, que vous connaissez peut-être.
Ah, Hugo Desnoyers, ouais.
Alors c'était génial parce que j'étais entouré de quarts de bœuf, d'agneaux et tout ça. Et lui aussi, je lui dis, oh, j'adorerais jouer ici parce que ça sent la viande, ça sent la vie et tout. Il me dit, bah, tu parles jamais. Mais je dis, si, allez, on le fait. Et on l'a organisé et ça a été merveilleux. On l'a fait deux fois d'ailleurs, deux, trois fois.
Quand on est Jacques Weber, je veux dire, quand on a votre carrière, votre aura, est-ce qu'on peut demander ce qu'on veut comme rôle ?
Oh, moi, tu sais, vous savez, ce qui est très important pour moi, c'est avec qui ?
Parce que si je vais vous dire le sens de ma question. Ouais. Moi, je connais très très peu le théâtre. Ouais. Et je lis tout le temps des interviews de gens qui disent « je rêverais de jouer ça, je rêverais de jouer ça ». Et vous dites « moi, j'aimerais jouer le Roi Lear ou Tchekhov ». Mais pourquoi on vous le propose pas alors ?
Le Roi Lear, je vais le jouer prochain avec Laboudan, mais parce que j'ai le metteur en scène, et parce que j'ai des partenaires. Je m'explique. Si Duchemu ou Durand me propose Hamlet, c'est des crétins notoires. Ça n'a aucun intérêt de jouer. Ça n'a aucun intérêt de jouer Hamlet. Mais aucun. Donc, ce qui compte vraiment, il faut savoir que le théâtre ne se pratique pas seul. Ça sociabilise dès le début. C'est une équipe entière. Et là, je fais pas de démago, mais c'est vrai. C'est le décor qui joue avec vous, qui vous aide à prendre en charge. Dimension que vous ne pouvez pas prendre. C'est le costume, c'est l'habilleuse, c'est tout le monde. Et puis vos partenaires, bien sûr. Oui. Moi, là, en ce moment, les gens ne me croient pas quand je dis ça, mais moi, comme c'est du bonheur, c'est une promesse de progrès avec architecture. Quand vous jouez en face, encore des mots, mais toi, t'en parles de lui. Ben si, quand je joue en face de Denis Podalydès, d'Audrey Bonnet, de d'Anne Brochet, de gens comme ça, Laurent Poitronneau, mais franchement, c'est des écoles et des générations différentes. Donc forcément, ça ne peut que me traverser et me faire progresser.
Vous avez dit deux choses, une qui ne m'a pas surpris, une qui m'a totalement surpris. Vous dites que je suis très heureux de jouer avec ces gens-là, ça je vous crois absolument. Et vous avez dit, je suis impressionné. Comment on peut être encore impressionné avec le niveau que vous avez ?
Mais non, mais vous savez, alors très honnêtement, je ne fais pas le fou, je sais à peu près où j'en suis. Disons que j'ai conscience d'un artisanat qui est dû aussi à 55 ans de carrière. Mais à partir de là, je suis comme eux quand j'entre en scène. Je meurs de trouille, de ce rendez-vous, on ne sait pas si ce dernier rendez-vous avec le taureau va ne pas m'être fatal. Et plus je travaille, plus j'avance, plus je me dis que c'est difficile, ne serait-ce que d'être bien. Ne serait-ce que d'être bien au théâtre. D'être formidable, c'est pour ça qu'on y retourne tous les soirs. On cherche le moment de grâce qu'un jour on a chopé. Mais ne serait-ce qu'être bien. Je sais, moi maintenant, oui, que c'est extrêmement difficile. Et je ne peux que respecter des gens qui ont une autre vision du monde que moi, une autre façon d'approcher le métier que moi. J'apprends forcément des choses. C'est d'ailleurs pourquoi il y a beaucoup de gens de mon âge, ou un peu moins âgés d'ailleurs, qui donnent des cours d'art dramatique, parce que la transmission se fait dans l'aller-retour. Jamais de façon... comment on dit, magistral, voilà, pas du tout.
Merci beaucoup Jacques Weber, je vous dis pas au revoir tout de suite, je voulais juste dire, j'ai oublié de le signaler, qu'il y a le Salon du Livre de la Jeunesse qui est à Montreuil, qui fête ses 35 ans ce week-end, avec 250 auteurs, dessinateurs, créateurs, créatrices qui vous attendent jusqu'à lundi. C'est une idée de sortie signée Culture Média, il faut vraiment y aller. C'était Nicolas Carreau qui nous le recommandait, on n'avait pas eu le temps parce qu'on avait un petit peu débordé. Merci d'avoir été avec nous Jacques Weber. Je rappelle la pièce Architecture, ça sera au Théâtre des Bouffes du Nord, ça sera du 6 au 22 décembre, et puis nous on va se retrouver. J'ai oublié complètement de vous dire un truc.
Oui.
Caca prout. Ah, ce type est fou. Nous, on se retrouve lundi à 9h pour Culture Média avec Estelle Lefébure et le chanteur Sans Severino. Bon week-end à toutes et tous. Elles sont mortes de rire, les filles. Bah ouais. Luce Bernard, Céline Dacosta, bon week-end. Salut Jacques, bon week-end.
À lundi, c'était Philippe Vandel sur Europe 1. Dans un instant, vous allez retrouver Anne Romanoff avec toute sa bande et leurs invités. Aujourd'hui, Patrick Sébastien et Catherine Pancol sur Europe 1.